Spiritueux moléculaire, cocktail de 630 litres, whisky inspiré du vin, spiritourisme participatif, baromètre Whisky Life, tequila en fût de Mizunara, Art Soda, Karuizawa à 100$. Bienvenue, vous écoutez la 76e édition de Distill News, publiée le 25 septembre dernier. Mais avant d'attaquer, petit rappel évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, rendez-vous sur distillnews.fr. Vous pourrez y retrouver notamment toutes les sources, tous les liens, toutes les ressources afin de compléter toutes les infos que je vais vous donner maintenant. Et sur ce, c'est parti. On attaque avec le baromètre Whisky Life Paris, hein, puisque à l'occasion du Whisky Life Paris, Ipsos et la Maison du Whisky ont publié la 4e édition de leur baromètre. Et parmi les données mises en avant, on a que le rhum et le whisky sont les spiritueux les plus connus, les plus achetés, les plus consommés. On apprend également que 67% des consommateurs déclarent davantage favoriser la qualité, quitte à y mettre le prix, ou encore que 73% considèrent être plus attentif aux informations sur l'origine de production. Donc voilà, donc le rapport complet fait 42 pages et vous pouvez évidemment le retrouver sur le site, voilà, en téléchargement avec toutes les datas, tous les graphiques, bref, il y a vraiment de quoi faire et je suis sûr que ça en intéressera pas mal. On continue ensuite avec les tendances, mais côté tequila cette fois, avec même si on constate que cette catégorie cartonne, hein, puisqu'on estime une croissance de plus 7% des volumes par an en moyenne d'ici 2026, l'IWSR hein, alerte tout de même hein, sur plusieurs challenges pour la catégorie, et notamment des pénuries d'agave, des coûts de production qui s'élèvent, mais aussi une concurrence d'autres alternatives à base d'agave, et notamment des spiritueux donc, sur cette même base de matières premières, mais qui seraient produits en Australie, aux États-Unis près de la frontière notamment, ou encore en Afrique du Sud et d'autres. Du côté des RTD ensuite, on apprend selon Dace Analytics, hein, qui est basé en Inde, que le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire est actuellement évalué à 34,42 milliards de dollars et devrait connaître une croissance de plus 11,2% par an en moyenne entre 2022 et 2030. On passe aux news produits maintenant et une petite découverte côté gin vodka moléculaire, hein, puisque j'ai découvert la marque Lindleaf, qui est développée à Cambridge en Grande-Bretagne et qui a créé en fait des spiritueux biomoléculaires sous le nom 88. Et on a, un gin, un organic molecular gin qui s'appelle 88 justement, et Singularity, ça c'est un autre produit qui est une organic molecular vodka. Concrètement et en pratique, l'équipe de scientifiques qui est derrière ce projet affirme être capable d'identifier et d'isoler les molécules exactes qui donnent le plus de goût à chaque ingrédient. Par exemple, trouver la molécule la plus citronnée d'un citron, etc. Et ensuite également trouver quelle combinaison s'harmonise le mieux entre elles, et notamment si on parle de gin, avec les baies de genévrier. Et tout ça, évidemment, afin de créer des spiritueux les plus aromatiques possibles. Et pour le gimmick, sinon, ils appellent ça de l'artisanat moléculaire. Bien trouvé. Et pour ceux qui voudraient creuser un peu plus la question, toujours sur le site, hein, j'ai mis une petite vidéo qui présente un peu le projet. Voilà. Et puis je vous rappelle, si vous écoutez en audio, vous pouvez retrouver tout ça en vidéo également, avec un peu plus de visuel, évidemment, sur YouTube et Spotify. On continue sur les news produits, mais cette fois côté whisky, avec Redemption qui étoffe sa specialty series avec une nouvelle référence, le Redemption Surlie Straight Rye Whisky, qui est un, comme son nom ne le laisse pas forcément deviner, mais qui est inspiré du processus d'élevage, surlie du vin. C'est-à-dire que les lies de la production du whisky sont ajoutées dans les fûts avant vieillissement, puis une rotation périodique de ces derniers, hein, donc des fûts, permet davantage d'interaction entre celle-ci et le whisky durant son vieillissement. Donc voilà, je ne connais pas d'autres exemples de ce type, donc plutôt intéressant. Et si vous avez l'occasion de goûter, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis de même si ça m'arrive. Ensuite, pour les amateurs d'un autre type de vieillissement original ou toujours de gimmick, eh ben on a le nouveau bourbon OH Ingram qui lui a été river aged, c'est-à-dire vieilli sur un chai flottant sur la rivière Mississippi. Ensuite, on passe à la tequila avec cette dernière qui n'échappe pas à la vague de spiritueux fini en fût de Mizunara, puisque Casa Dragones a en effet annoncé le lancement de Casa Dragones Reposado Mizunara, une tequila à 40% d'alcool, vieillie intégralement durant 3 ans en fût du précieux chêne japonais. Côté rhum ou assimilé ensuite, on a en France Whisky du Monde qui a dévoilé une nouvelle création, à savoir Nectar, et il s'agit d'une gamme d'arrangés à base de rhum agricole de Martinique et Guadeloupe et de fruits coupés à la main. Toujours en France, on a aussi D'Artigalong, donc là on passe à l'Armagnac, qui lance justement un nouvel Armagnac, et sa particularité, et c'est assez inédit, c'est qu'il est labellisé bio. Dans un tout autre style ensuite, on a 500 bouteilles d'un certain NC Paradis Golden Edition qui sont en vente en exclusivité sur Blockbar. C'est la deuxième collaboration entre la plateforme de NFT et NC. Et du côté des fines de Bourgogne, on a Sabs Spirit, donc basé à Beaune, qui a dévoilé ses Special Cask 2022, à savoir un Riff Salt et un Pinot Cask Finish, plus précisément, ou la rencontre d'une autre vie de vin de Bourgogne avec des vins doux naturels d'autres régions. Côté liqueur, on a Adriatico, qui après sa première expérience avec un finish en fût de Bourbon, qui a remis le couvert, mais cette fois avec une nouvelle édition limitée, passée dans un fût de rhum Caroni. Et ça s'appelle Adriatico Roasted Almonds X Caroni Cask. Et dans un autre style, on apprend que Jet 27, donc qui appartient à Bacardi Martini, qui a modifié sa formule et qui passe donc de 21% d'alcool à 17,9% d'alcool désormais. Petite news RTD maintenant avec The Beast Unleashed, la version alcoolisée à 6% d'alcool de Monster, qui se dévoile un peu plus puisqu'on peut découvrir sur le net une première preview de son étiquette. Et tout ça sera décliné, je crois, en 4 parfums différents. Voilà, c'en est fini pour les news produits, mais je vous rappelle que si vous êtes abonné à Distill News Daily, donc la version quotidienne de Distill News, avec pour le coup, via l'abonnement payant, vous avez évidemment accès à plus d'une vingtaine de news supplémentaires. Ça se passe sur le site. Et voilà, donc n'hésitez pas à checker tout ça, à vous abonner. Vous avez un mois d'essai gratuit si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous aurez comme ça un récap de plus d'une trentaine de produits qui ont été annoncés au cours de la semaine. On passe aux news business maintenant avec un petit point récession, puisque selon l'IMRG Capgemini Online Retail Index, on apprend que les ventes en ligne de bière, vin et spiritueux au Royaume-Uni ont chuté de 20,6% en août par rapport à la même période l'an dernier. Et plus surprenant, c'est là en fait le 17e mois consécutif que ce chiffre décline. Parlons investissement maintenant avec une plateforme qui s'appelle Vint. Donc si vous avez envie de détenir un bout de whisky hors de prix sans vous ruiner, cette plateforme Vint, qui est une plateforme d'investissement dans les spiritueux, elle a mis en vente un lot de 4 bouteilles de Karuizawa Saphir Geisha de 31 et 36 ans d'âge. Et donc ce lot, il y a donc les 4 bouteilles, c'est évalué l'air de rien à 158 000 dollars. Mais sachez qu'en fait, par cette plateforme, vous pouvez en acquérir en fait une fraction, une part. Il y en a 1580 en tout, ce qui fait que vous pouvez vous payer une part pour 100 dollars. Voilà, donc avis aux spéculateurs. Perso, je ne suis pas très friand de ce genre de choses. Mais voilà, il y a moyen de spéculer sur le genre de produit, d'acheter sa petite part à 100 dollars ou davantage. Et pourquoi pas les revendre avec un bénéfice, mais voilà, dans tous les cas, n'espérez pas boire une quelconque goutte de ce produit si vous en faites l'acquisition par ce biais-là. Et côté blockchain, puisqu'on parlait de Blockbar juste avant avec NC, et bien en fait on a appris quelques chiffres sur cette société qui a maintenant un an d'ancienneté, et donc elle a attiré visiblement 300 000 utilisateurs au cours de sa première année. Elle a vu ses ventes atteindre la somme de 7 millions de dollars au cours de cette même période, et elle ambitionne même de tripler tout ça au cours de sa deuxième année. À suivre. Sur le terrain de la publicité maintenant, et notamment d'un point de vue un peu réglementaire, c'est pas parce qu'on s'appelle Gordon Ramsay et qu'on promeut son gin sur Instagram et Facebook dans un pays sans loi Evin, en l'occurrence en Grande-Bretagne, que tout est possible pour autant. Hein, puisque, en fait, on apprend qu'après avoir posté une pub mettant en valeur les micronutriments des ingrédients qui constituent le Ramsay's Gin, hein, et notamment en expliquant qu'il y a des baies qui sont plus riches en vitamine C, en antioxydants, en potassium, etc. Eh bien, Ramsay's Gin s'est fait taper sur les doigts par l'autorité britannique de surveillance de la publicité, l'Advertising Standard Authority, plus exactement, pour lui dire, non, c'est pas possible, donc y compris en Grande-Bretagne, on est évidemment, même s'il n'y a pas de loi Evin comme on l'a en France, on est extrêmement vigilant sur qu'est-ce qu'on déclare quand on fait de la publicité sur de l'alcool. On bascule sur des petites news liées à la production maintenant, avec un double retour en France, hein, puisque Strobel Distillery, qui est basé à côté de Toulouse, a reçu un nouvel alambic afin d'assurer sa future production de rhum pure pot still 100% bio. Donc ce nouvel alambic s'appelle Calcifère et ce sera apparemment le premier alambic double retors installé en France. Donc là, vous pouvez checker des photos sur l'Instagram notamment de Gilles Victor, qui est le fondateur de Strobel. On parle local à grande échelle. Ensuite, puisque j'ai découvert une distillerie qui a visiblement trouvé un moyen de scaler la production de gin locaux à une échelle quasi continentale, hein, puisqu'on parle de l'Australie, et cette distillerie s'appelle Australian Distilling Co. Et quand je dis cette distillerie, en fait, c'est même au pluriel, hein, puisqu'elle est en fait déjà basée à Adélaïde, à Brisbane ou encore à Sydney. Et on apprend qu'elle ouvre deux nouvelles distilleries supplémentaires à côté de Melbourne cette fois et de Perth. Des distilleries pour à chaque fois avoir l'intention de produire des variantes de gin aux ingrédients sourcés localement. Donc voilà comment en fait on peut faire du local à grande échelle, c'est simplement en multipliant les points de production un peu partout dans le pays ou sur un continent. Développement durable à présent, j'ai lu un petit article chez Le Figaro Économie qui explique que Absolute Vodka produit plus de 100 millions de litres par an ou 600 000 bouteilles par jour, rien que ça. Et Le Figaro a donc partagé un peu des infos, quelques datas intéressantes sur finalement comment on peut produire autant, tout en s'évertuant à le faire le plus proprement possible. Donc, quelques insights intéressants, c'est que la distillerie est alimentée à 90% par de l'hydroélectricité qui provient de barrages norvégiens à proximité. On apprend également que ces restes d'alcool sont transformés notamment en biocarburant, ou encore que toutes les drèches qui servent à la production de la vodka permettent d'alimenter 290 000 vaches et cochons de fermes voisines. Donc voilà comment on peut créer un cercle un peu vertueux et tout en produisant à une échelle qui est somme toute impressionnante au niveau mondial. Spiritourisme à présent et de manière un peu fun. Donc on a Ryan Reynolds qui a ouvert enfin la distillerie Aviation Gin à Portland. Et en fait, il a fait une petite publicité assez amusante où il fait lui-même la promotion en fait des visites de cette nouvelle distillerie et où il montre qu'il compte bien mettre à contribution ses visiteurs pour leur offrir ainsi une expérience vraiment complète de la fabrication du gin, hein, puisque comme le veut l'adage, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, un petit film plutôt cool, une manière originale de faire de la promo de Distillery Tour. Et toujours sur la thématique spiritourisme, mais cette fois pas à Portland, pas aux États-Unis, mais plutôt au Québec, si le sujet vous intéresse, j'ai compilé en fait sur le site toutes sortes de vidéos en fait que j'ai cumulées au cours de ces derniers mois, de visites, des choses bien produites sur des visites de distilleries québécoises. Donc voilà, c'est plutôt éclectique, hein, puisqu'on a des distilleries dans des églises, on a des distilleries qui font de l'upcycling, des jeux d'autres plus classiques. Mais bref, si ça vous intéresse, le lien toujours en description. Quelques news bar maintenant, avec suite et fin de l'année Grony Week, hein, avec un petit record du monde, puisqu'on a l'équipe de l'hôtel K Kimpton Mai Lai à Bangkok, qui a marqué le coup, en fait, lors de l'édition là, qu'il y a eu il y a 2 semaines maintenant, en réalisant le plus grand Negroni du monde, du moins le plus grand homologué par le Guinness Book. Et quand on parle de grand, c'est grand, hein, puisque c'est 630 litres d'un mélange à part égale de gin bulldog, de Campari et de vermouth Cinzano. Côté éducatif, ensuite, on a The Blend World, la plateforme d'éducation pour les bartenders de Beam Suntory, qui a publié un teaser au style rétro, 80s et plein d'humour pour son nouveau programme Bar Essentials. Et c'est animé par Ian McPherson de Panda & Sons à Édimbourg et de Mo Aljaf de Two Schmucks à Barcelone. Et voilà, et puis ça a l'air assez intéressant, assez fun. Et entre autres exemples présentés sur la plateforme, on peut notamment découvrir une technique de freeze concentration et pas mal d'autres choses. Donc le teaser et le lien vers tout ça, toujours en description dans la newsletter version écrite. Et plus classique sinon, et pas plus basé sur les spiritueux cette fois, on a le Wine and Spirit Education Trust, donc le fameux WSET, qui va lui tenir des portes ouvertes virtuelles les 19 et 20 octobre prochains, afin de, d'expliquer un peu tout ce cursus. Donc voilà, vous pouvez également checker ça si ça vous intéresse. Une petite interview ensuite du côté de chez Atabula, hein, qui en plus c'est cool parce qu'il n'y a pas de paywall sur cette interview, elle est lisible même sans être abonné. Et en fait, c'est un grand entretien avec Rémi Savage, hein, dans lequel il y évoque l'ouverture fin octobre notamment de son bar nouveau dans le Marais à Paris, le concept derrière celui-ci, il y évoque aussi son passage à l'artésiane ou encore son rôle de master mixologiste pour le cognac Martel. Bref, une interview plutôt intéressante. Du côté des podcasts maintenant, les spiritueux en mode réalité augmentée, est-ce que ça vaut le coup ? C'est la question qu'on s'est posée dans le nouvel épisode du Bottle Field Show, avec pas mal d'exemples à l'appui et même quelques insights de Ludovic sur le prix de certaines de ses opérations. Donc si vous intéressez un peu à toutes ces étiquettes en réalité augmentée qu'on voit un peu fleurir depuis, ça fait quand même depuis quelques années maintenant, mais peut-être que ça va se développer encore davantage maintenant. Écoutez, je vous invite vraiment à checker cet épisode du podcast. Ensuite, petit retour en image sur France Quintessence. Hein. Toujours sur le site, vous pouvez retrouver des photos de la dernière édition qui s'est tenue mi-septembre. Hein. Je me souviens même plus des dates exactes. C'était le 11 et 12 septembre. J'ai publié sur le site pas mal de photos officielles pour se replonger dans l'événement si vous y étiez ou simplement voir un peu l'ambiance si vous n'y étiez pas. Et tout ça pour dire, hein, l'info principale derrière, c'est que les dates de l'édition prochaine, donc 2023, sont d'ores et déjà annoncées, ce sera le 10 et 11 septembre. Et sur ce, c'est fini pour cette 76e édition. Hein. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, évidemment, à commenter, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et compagnie. Si vous n'êtes pas abonné, toujours distilnews.fr, c'est gratuit donc pour cette édition hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à checker ça, vous recevrez donc directement toutes ces infos par mail chaque dimanche et vous pourrez évidemment aller plus loin avec toutes les ressources qui y sont indiquées. Sur ce, je m'excuse hein, évidemment pour le petit retard de publication. Hein, j'étais à Whisky Live ce lundi et ça explique ce retard de podcast. Mais voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je tâcherai de bien publier lundi prochain. Et dans tous les cas, je vous dis donc à demain si vous êtes abonné à la Daily et à dimanche 18h pour le 77e numéro. Portez-vous bien. Ciao!